Bien, si j'ai choisi cet intitulé Imagination est pauvre, c'est évidemment pour réagir contre l'idée ou peut-être le mythe de la riche imagination. Que l'imagination déborderait et qu'elle serait plus large, plus ample que le réel. Donc je voudrais réagir à ce thème commun en soulignant deux points. Le premier, c'est qu'à examiner un peu ce que constitue la pensée de l'imagination dans l'histoire de la philosophie, on se rend compte qu'elle est sans consistance, l'imagination. Plutôt que chacun en fait ce qu'il veut, qu'elle représente au fond ce point de difficulté, donc aussi de commodité, pour chaque philosophe, de façon à réarticuler, reconfigurer une notion qui en elle-même est la plus plastique. Donc ce qui m'intéressera au départ, c'est cela, cette sorte de plasticité d'une notion qui n'a pas de consistance en elle-même, quasiment pas, et donc dont chacun fait à peu près ce qu'il veut. Et puis, dans un second sens, à tirer du premier, le fait que l'imagination n'est pas plus que le réel, déborderait, dépasserait le réel, mais plutôt moins que le réel, en retrait par rapport à lui. Alors la question sera de demander, qu'est-ce qui est riche si ce n'est pas l'imagination? Donc d'abord, d'où nous vient cette notion? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas de consistance en elle-même? Donc elle est pauvre au sens théorique, c'est-à-dire sans concept, ou quasiment pas. Pour cela, il faut se repencher sur ce qui était au début de la notion, en tout cas telle qu'elle nous vient dans la philosophie grecque, Aristote, le péripsychès de l'âme, nous présentant l'imagination par la négative. Au fond, on a deux choses dont on sait à peu près ce qu'elles sont. La sensation d'un côté, la esthésis, et puis la réflexion, dianoïa, enfin la dimension d'intelligence. Et l'imagination se définit d'abord comme étant ni l'un ni l'autre. Donc dans l'entre-deux, plutôt flou, qui fait son inconsistance. Ni l'un ni l'autre, ni la sensation, ni l'intellection. En même temps, ce que remarque Aristote dans ce texte, donc, qui est le texte fondateur, hein, celui qui donne. Disons, son assise à la notion, c'est qu'en même temps, elle dépend de nous, qu'elle nous laisse serein, quand on imagine, au fond, même si c'est les choses les plus horribles qui soient, on n'en est pas vraiment touché. Et qu'elle est, au fond, cette chose que la définition de base que nous donne Aristote, fantasmati min geinestai, il y a du fantasma, de l'image, qui nous vient. Fantasma ti, emin, genestai. Donc quelque chose qui est une disposition, une puissance, Aristote est entre les deux, dynamis, sexis, mais en tout cas qui se comprend par négation, avec d'abord la sensation, l'imagination, l'image d'imagination via la sensation, en même temps s'en distingue puisque nous pouvons imaginer sans la sensation, in absentia. Exemple dans le rêve, n'est-ce pas? Nous imaginons sans que les choses soient là. Et d'autre part, parce que la sensation est vraie, et l'imagination, elle est pseudaste, elle est mensongère, fallacieuse, en tout cas majoritairement. Donc, c'est comme ça qu'on conçoit l'imagination, par différence avec la sensation, qui, elle, est présente, parestie, nous dit Aristote. Elle est là, elle est bien là, la sensation. L'imagination, n'est-ce pas? N'impose pas sa présence. Elle donc d'en apparaître et qui reste comme tel indistinct. Puis l'autre distinction, donc, elle n'est pas sensation, elle n'est pas non plus intellection, nous, stianoia. Donc elle ne peut pas s'apparenter non plus aux opérations vraies, qui sont celles de la science, de l'intellection, épistémé, nous, bon, le registre de la vérité. Alors on pourrait dire, mais peut-être qu'elle est dans l'entre-deux. L'entre-deux que les Grecs, vous savez, ont cherché à travers la notion d'opinion, doxa, qui serait une sorte de comme ça de mixte ou de flou, non plus. Puisqu'au fond, Aristote nous dit, la doxa, c'est encore, qu'est-ce qui fait qu'on est dans la doxa? C'est qu'on y croit, l'opinion, on y croit, pistis. Donc il y a une sorte de persuasion qui travaille par-dessous, peito. Et finalement, donc, c'est une forme de logos, amoindri, certes, mais c'est néanmoins en route vers l'intellection. Or, là, l'imagination ne fournit pas cela. Donc, quelle est cette chose trouble dont Aristote nous dit qu'elle doit appartenir aux animaux, pas tous, en tout cas qu'elle doit être largement partagée, l'opinion n'étant réservée qu'aux hommes. Et quelle est donc cette chose étrange qui est de la sensation, mais qui a perdu sa vérité, parce qu'elle a perdu sa présence. Et c'est la question finalement que va creuser Aristote, c'est quelle peut être cette consistance inconsistante de ce qui, venant de la sensation, n'en a plus la présence, donc en est quelque part, rendu flou, incertaine. Je pars de là parce que d'abord c'est le départ de la notion, et puis parce qu'il y a bien cette chose qui a été le grand point de départ de la pensée européenne, d'abord de la pensée grecque, c'est qu'on a deux bornes, la sensation d'une part, l'intellection de l'autre. Et donc, ce qu'on appelle l'imagination, de façon en fait comme capacité très largement négative chez Aristote, puisque mensongère, puisque ne nous mettant pas en route vers la vérité, eh bien, est une sorte d'intermédiaire pauvre. C'est ce qui fait le point de départ, tel qu'il va se prolonger dans la philosophie en rapport à cette question essentielle, qui est la connaissance de la vérité, vis-à-vis de quoi l'imagination ne contribue quasiment à rien. Mais vous savez qu'il y a, et c'est ça qu'il faut voir de plus près, c'est cette géologie-là de notre pensée, et d'abord dans son établissement grec, dans sa sédimentation grecque, c'est qu'il y a cette faculté telle que la philosophie la conçoit, et puis il y a autre chose, qui va progressivement se ranger dans le domaine de la littérature, qui est en tout cas l'art oratoire, l'art dramatique. Et c'est là qu'on voit apparaître, mais d'abord très discrètement, une autre possibilité d'imagination, non plus prise comme ça en étau entre sensation, intellection, les deux étant vrais, mais elle, dans l'entre-deux, étant majoritairement mensongère ou fallacieuse, qui est ce qui s'ébauche discrètement autour de l'image dans sa vocation propre. Donc là, on change de registre et on se tourne vers des textes qui abordent la question de l'image, puis après l'imagination, sous un angle de sa capacité, on dira aujourd'hui, littéraire. Donc il y a pas d'équation entre les deux, il n'y a pas de cohérence entre les deux. Ces deux plans distincts, la notion d'imagination parallèlement chemine. Alors j'indique deux, trois textes comme ça parce que c'est des textes qu'on lit peu. Le premier est important parce qu'il a une importance à l'époque classique en Europe, c'est le pseudo-Longin sur le sublime, au chapitre 15, qui parle de l'image et de la capacité de l'image dans son effet, qu'on dira, poétique. Je vous lis le passage. Vous savez que Boileau, enfin toute tradition classique, qui s'est reportée à ce texte de celui qu'on appelle pseudo-Longin. Les images, donc fantasia l'imagination, fantasia les images contribuent aussi puissamment, mon jeune ami, à donner au style de la gravité, de la majesté, de l'énergie. Donc là, on parle du fait de l'image dans sa capacité poétique, qu'on va aussitôt scinder en deux, entre deux types d'images de ce type, celle qui est rhétorique et dont la vertu, c'est la clarté, l'effet de clarification par la mise en image, l'image illustre, hein, rend sensible, et puis celle qui est chez les poètes, poètes dramatiques à l'époque, qui est dans son effet d'ébranlement, ex plexis, quelque chose qui nous fait réagir et fait surgir de la réalité devant nous. Avec un verbe qui apparaît donc qui commence à prendre une vocation littéraire poétique qui est fantazomai, fantasmé. Seconde référence, si je vous dis très vite, c'est quelques repères qui font apparaître un cheminement discret de cette notion d'image qui progressivement, avec l'effet de son verbe, va nous orienter vers ce qu'on va concevoir comme étant l'imagination productrice, créatrice, bref, qui serait sa richesse. Seconde référence chez Quintilien dans l'Institution oratoire, livre 6, paragraphe 2, où l'imagination apparaît comme la représentation pathétique de l'absent. tous les passages, là encore. Ce que les Grecs appellent fantasia, nous pourrions bien l'appeler visio. Ah oui, on passe du grec au latin, il y a ce problème qu'il faut changer de sémantisme. Donc, la faculté de nous représenter les images des choses absentes, donc c'est bien l'absence qui est caractéristique, au point que nous ayons l'impression de les voir de nos propres yeux et de les tenir devant nous, quiconque aura pu bien le concevoir sera très efficace pour faire naître les émotions. Quelques auteurs appellent euphantasiotos, donc le bien doué en termes de fantasia, doué d'une vive imagination, l'homme apte à se représenter de la façon la plus vraie les choses. Alors, vous voyez, ce qui fait écart, c'est qu'apparaît là, du côté des rhéteurs, dans les faits produits par l'image au sein du discours, quelque chose qui est une notion de vérité tout autre, qui va être pour nous le point de départ de la vérité, comme on dit, littéraire, qui n'est pas la vérité philosophique. Puisqu'il est dit ici, l'homme doué d'imagination, apte à se représenter de la façon la plus vraie les choses. J'insiste là-dessus parce que je crois qu'on est resté dans cette, enfin, vous savez bien, dans cette difficulté-là, entre la vérité telle que la philosophie l'a conçue, dans son apport de connaissances, et puis quelque chose qui va être le vrai littéraire, l'impression de vrai, l'effet de vrai, tel que l'image va le porter. Il y a un troisième passage qui, dans cet avènement discret comme ça de la notion d'image, me paraît plus intéressant, parce qu'il est l'aboutissement de cette affaire-là. C'est des choses qu'on ne lit plus, si ce n'est quand on va aller chercher pour tel ou tel usage. C'est dans Philostrate. Vous avez donc ces textes tardifs, comme on dit, mais qui sont bien les textes où se joue, où se noue, de ce qui va ensuite se déployer dans la conscience européenne. Donc d'abord dans un clair-obscur et de façon, comme ça, occasionnelle, occurrente, mais qui progressivement va se déployer dans la tradition européenne. Donc, Philostrate, dans ce texte, de la vie d'Apollonios de Tyane. Oui, on ne lit pas ça tous les jours, c'est vrai. Mais je vous lis ce passage parce que je trouve très intéressant, par contre. Il s'agit d'affaires des dieux. Oui, parce que s'il y a un sujet sur lequel on peut fantasmer, fantasestai, n'est-ce pas, c'est bien la figuration des dieux. Et là, vous avez deux traditions. C'est bien que le rapport de la Grèce à l'Égypte, tous les philosophes grecs sont allés en Égypte, Platon aussi. On n'y va plus à partir d'Aristote. Mais il y a cette sorte d'une source comme ça, en amont, d'une autre sagesse, dont on a peut-être dévié, peut-être qu'on a perdu, bref. Présence de l'Égypte dans l'élaboration de la pensée grecque qui se retrouve à l'époque tardive. Donc, discussion sur les dieux. Comment figurent les dieux en Grèce? Comment figurent les dieux en Égypte? Vous savez, en Égypte, c'est la figure d'animaux, de chats, d'oiseaux, etc. Alors là, il y a une rencontre brutale entre deux conceptions possibles d'accès à la divinité par sa figuration. Comment donc, demanda Thespesion, les dieux chez vous sont-ils représentés? Réponse du grec. De la façon la plus belle, la plus respectueuse, la plus saillante à l'idée que nous en formons. Répond celui qui découvrira être l'Égyptien. Tu me parles du Zeus d'Olympie, de la Pallas d'Athènes, de l'Héra d'Argos et les autres statues que vous considérez comme des chefs-d'œuvre. Je ne parle pas seulement de ces œuvres d'art, mais je dis que la statuaire de tous les pays, souci grec de l'étendre à l'universel, a généralement su garder la bienséance qu'impose la majesté des dieux, tandis que vos sculpteurs, vous les Égyptiens, semblent plutôt chercher à faire rire aux dépens des puissances divines qu'à les faire respecter. Oui, représenter les dieux sous figure de chien, de hibou. Hein. Réponse de l'autre, est-ce que Phidias et votre Praxitèle sont montés au ciel pour faire poser les dieux? Oui, mais l'Égyptien a dit, alors voilà, montez au ciel, faites poser les dieux, modèle, n'est-ce pas, modèle de la beauté, et sculptez leur statue d'après les maquettes qu'ils en ont rapportées. Êtes-vous monté au ciel pour les voir, les dieux? Réponse de l'autre, le grec, ils n'ont pas eu besoin de s'élever si haut. Ah, comment s'élève-t-on alors? Si ce n'est pas en allant voir les dieux et les prendre comme ça, les croquer sur le vif. Et par quel autre moyen sont-ils arrivés à façonner leurs images? Leur habileté a dû recourir à l'imitation. Bon, grand terme de la pensée grecque, l'imitation, mimesis. Il avait fallu les représenter. Traduit par représentation plutôt qu'imitation, parce que mimesis, mimestai, au départ en grec, vous savez, c'est par rapport au théâtre. Donc, comme on dit représenter au théâtre, ensuite la représentation. Et c'est avec les Grecs qu'on commençait à concevoir le littéraire à partir de cette capacité de représentation. Hein, chez Aristote, la mimesis pour la peinture et aussi bien après pour le théâtre. C'est là que le passage devient intéressant. Non, ils n'ont rien imité. Imité, représenté. C'est l'imagination qui a conduit leurs mains, car l'imagination a une vertu créatrice bien plus considérable que l'imitation. Il y a en grec, fantasia, effet, dit-il, tota egatato, a fait cela, sophotera mimiseos demiurgos, étant un démiurge plus sage, sophos, que la mimesis. Donc, l'imagination est un démiurge, créatrice, beaucoup plus sage que la mimesis, que l'imitation. L'imitation, en effet, ne peut représenter que ce qu'elle a vu, mais l'imagination représente même ce qu'elle n'a jamais vu et ne verra jamais. Donc là, on voit surgir, comme ça, au détour d'une phrase, d'une anecdote, n'est-ce pas, de l'affaire des dieux, face à la mimesis, qui est la grande notion qui avait retenu toute pensée et l'imagination, eh bien, en adversaire, en rival et en irrival, ici privilégié, la fantasia comme sujet, et là, donc, advient effectivement la notion d'imagination. On est passé de l'image poétique à une faculté qui est celle de créer démiurgos, comme le dieu démiurge, n'est-ce pas, ce qu'elle n'a pas vu, ce qu'elle ne verra jamais. Alors, la conversation se complique après parce que alors, la réponse des Égyptiens est de dire justement vous rabaissez la divinité en la représentant, même si c'est avec cet apport de la fantasia qui ne s'en tient plus à ce qu'elle a vu, car nous nous représentons les dieux effectivement sous figure d'animaux, mais c'est de façon symbolique. Symbolique ou symbolica uponomena, comme donc de façon indirecte. Au fond, nous avons une conception des dieux plus élevée, ce qui fait que nous préférons les figurer de façon symbolique sous la figure d'animaux, de façon indirecte, uponoumena, c'est-à-dire en mettant des sens implicites dessous, plutôt que vous en les modélisant. Car on voit bien qu'au fond, ce qu'il y a sous cette notion d'imagination, hein, dite démiurgique, c'est l'idée de modélisation. D'où incarnation d'une beauté exemplaire. En tout cas, ce qui me paraît important, c'est qu'on voit que cette notion d'imagination, elle n'est pas d'une seule venue. Elle est prise comme ça en difficulté ou en entre le plan de la philosophie qui ne sait pas qu'en faire, qui la range comme ça dans l'entre-deux de la sensation et de l'intellection, et puis quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient de l'art des rhéteurs, qui vient de l'art du théâtre, et qui est cette vertu de l'image à rendre plus sensible, à donner une impression de vrai, plus vrai que le vrai, donc une autre source de vérité, et qui est donc porteuse d'une notion de littérature. La notion de littérature qui ensuite s'est déployée, qui n'existe pas comme ça, comme telle en Grèce, mais qui nous met bien dans cette difficulté européenne d'avoir comme ça ces deux discours en tension, le discours philosophique et puis un autre, le discours littéraire, qui va progressivement se faire reconnaître comme tel au nom d'une autre notion de vérité que celle que la philosophie, comme ça, a installée. Donc, il y a d'abord ça, cette sorte de caractère singulier de l'avènement de cette notion dans ce rapport, dans cette tension entre ces deux plans, du philosophique et de ce qu'on pourrait appeler le littéraire. Est-ce que c'est une notion qui s'impose à nous? En tout cas, si moi, comme je fais souvent, je regarde de côté et je sors momentanément de la pensée européenne, je me rends compte que, passant en Chine, eh bien, je ne vois pas de notion d'imagination. Et je me dis, alors si on a pu, comme ça, d'une pensée aussi élaborée que la chinoise, ne pas concevoir à partir de l'image une faculté de l'esprit, qu'est-ce que cela nous dit de ce qu'on appelle la création littéraire? Qu'est-ce que ça nous dit de l'invention poétique? Bref, qu'est-ce que ça nous sujet d'inquiétude à l'égard d'une notion qui s'est progressivement si bien installée dans la pensée européenne. Au fond, les Chinois sont partis de toute autre chose, non pas de l'image, mais d'un autre pli, c'est-à-dire d'une autre entrée possible dans la pensée, qui est que l'esprit voyage, que je suis ici, mais que mon esprit peut aller vagabonder ailleurs. L'idée qu'au fond, l'esprit, c'est une capacité de déplacement. C'est ce que les Chinois nous disent, n'est-ce pas ? Butiasu. Ça va vite sans se presser, l'esprit. Ça va vite sans se presser. Et donc, il y a une faculté en nous qui est celle de voyager, or, qui relève de vieilles représentations chinoises, taoïstes notamment, du sage qui voyage avec les nuées, qui chevauche les nuages, qui, bon, bref, va au bout du monde. Et c'est ça qui a été, alors, dans les textes qui aujourd'hui sont traduits, y compris en Chine, comme étant sur l'imagination, par une notion qui ne comporte aucune image, et qui est celle d'une capacité, disons, de l'esprit à vagabonder. C'est un passage que je prends dans le grand livre de pensée de la littérature en Chine du 5e, 6e siècle, Liu Xie, dans le Wenxin Diaolong, mais en fait, d'un livre qui n'a pas été connu pendant des siècles, mais qui aujourd'hui est considéré comme le pendant en importance de la poétique d'Aristote. Et voilà, si je commence par ce que le chapitre qu'on traduit aujourd'hui comme étant de l'imagination, ouvrant donc la pensée littéraire, voilà ce qui est dit. Selon un homme de l'Antiquité, oui, en Chine on aime bien ça, n'est-ce pas ? Se référer au passé, se mettre sous l'autorité de. Selon un homme de l'Antiquité, il demeure physiquement présent sur les eaux, mais son esprit réside aux portes du palais. Donc, voilà, il voyage, il se dégage de sa présence physique. C'est ce qu'on désigne du terme shens. Dans la méditation propre à la création littéraire, ce mot qui rajoute ce propre à la création, mais bon, bien me fasse entendre. L'esprit se déploie loin, c'est pourquoi dès qu'en silence se concentre l'esprit, sa pensée peut se rapporter à 1000 ans en arrière, à peine modifie-t-on sa contenance, que son regard peut s'étendre sur 10 000 lits. Bref, ce qui est au fond, au départ, de l'invention, de ce qu'on traduit nous par imagination, cette capacité donc de se déplacer, de l'esprit, de se déplacer en dehors de la présence physique, de voyager au plus loin de là où on est. C'est-à-dire la formule marquante de la fonction poétique en Chine, qui est celle de l'esprit vagabondant ou randonnant avec les choses, de concert avec les choses, se promenant avec, n'est-ce pas ? Donc, vous voyez, absence d'une thématique de l'image, qui est étonnante parce qu'au fond, on voit toute une pensée qui a pu se constituer sans ça. Et ce qui m'intéresse, c'est la retombée pour aujourd'hui. Au fond, ce qu'on appelle la comparaison, c'est simplement exprimer en mettant proche, en rapprochant. Au point que il y a le terme qui signifie image en chinois, xiang, signifie aussi bien phénomène. Alors, je trouve ça important et important pour l'art d'aujourd'hui. Au fond, on voit qu'on a pu élaborer toute une pensée de ce que nous appelons l'image, sans penser ce statut de dédoublement, de représentation. Bref, l'image, c'est du phénomène comme les autres phénomènes. Donc, sans séparer entre ce qui serait image et phénomène. Par exemple, dans les traités de peinture classiques, quand il est dit « sans je mort de l'image, mort du phénomène », c'est « la peinture n'est pas bonne, on ne peut pas distinguer les deux ». Au point qu'il a fallu traduire « imagination » en chinois, à la fin du XIXe siècle, chinois, japonais. Donc on est devant toutes ces notions qui ont été considérées par l'Occident comme étant des notions de tout esprit humain s'imposant à la pensée, dont on voit que d'autres cultures, finalement, ont pu élaborer leur outillage conceptuel en s'en passant, et qu'il a donc fallu traduire quand les cultures se sont rencontrées. Je tiens là ça en passant parce que je vois qu'il y a d'abord cela. C'est peut-être une inconsistance, en tout cas, de la notion d'imagination, et qu'on constate exemplairement quand on regarde les différentes façons dont on a conçu l'imagination, je le ferai très vite pour quelques-unes d'entre elles, dans la pensée classique en Europe. Au fond, on se rend compte que la notion n'impose rien, quasiment rien par elle-même, et donc chacun la prend comme il veut, plutôt que c'est ça qui m'intéresse, c'est cet aspect plastique d'une notion qui est ce que reconfigure chacun à sa façon, pour, disons, organiser son système de pensée. Donc ce point, comme ça, fragile, ce point n'imposant rien ou quasiment rien. Donc on peut reconfigurer à sa façon, à son profit, je dirais, en fonction de la perspective que l'on veut développer. Bon. Alors, première référence, j'en prendrai trois en allant vite. Pascal sur l'imagination. Les textes sont connus parce que les phrases sont belles. Et quand il est dit que l'imagination est trompeuse, bon, on reprend le vieux thème, Pascal le poussant à bout, l'imagination est trompeuse, donc le thème d'Aristote. Hein, l'imagination est trompeuse, d'autant plus trompeuse qu'elle ne trompe pas tout le temps. Si elle nous trompait tout le temps, elle aurait quasiment sa vérité à l'envers. Mais comme elle nous trompe majoritairement, mais sans que ce soit systématiquement, elle est d'autant plus trompeuse qu'elle nous laisse dans l'incertitude même sur sa tromperie. Et c'est le début du grand passage. Parce que quel est l'usage Pascal ? C'est plaider la faiblesse de l'homme, la misère de l'homme sans Dieu. Donc il y a là quelque chose qui lui permet de développer sa pensée, qui est donc de faire apparaître la misère de l'homme, son inconsistance, à travers cette faculté qui elle-même est inconsistante, mais d'autant plus puissante du fait de son inconsistance. Donc un usage très particulier, cet usage d'apologétique. Vous vous souvenez, c'est cette partie décevante dans l'homme, cette maîtresse d'erreur et de fausseté, et d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours. Car elle serait règle infaillible de vérité si elle était infaillible du mensonge. Bon, on ne peut mieux dire, mais ce qui est important, c'est donc qu'elle ne marque même pas son caractère de faux ou de vrai. C'est ce qui fait sa toute puissance. Maîtresse d'erreur de fausseté, parce qu'elle est la maîtresse du monde, et c'est le grand thème pascalien du fait que l'imagination est toute puissante du fait même de son inconsistance. À l'égard de la raison, je cite, elle fait croire, douter, nier la raison, comme à l'égard des sens, toujours le grand vis-à-vis des raisons et de la sensation, elle suspend les sens, elle les fait sentir. Donc elle fait tout. Parce que c'est elle qui part le réel, le dort, en quelque sorte, de valeur. C'est elle qui valorise, d'où sa puissance. Vous vous souvenez de la formule, la raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. Ce qui met le prix aux choses, c'est l'imagination. Elle met le prix aux choses, les choses étant présentes. C'est donc pas du tout que parce qu'elles sont absentes. Au contraire, ce que nous raconte sa belle page Pascal, c'est les juges qui portent des robes ou des bonnets carrés, les médecins également, parce qu'ils n'ont pas en fait de savoir effectif, ni qu'ils prononcent effectivement la justice, donc ils se parent de ces atours dont s'empare notre imagination pour les créditer, eux, n'est-ce pas, d'une capacité qu'en fait, ils n'ont pas. Alors que nous dit Pascal, les rois n'ont pas besoin de ça. Les rois, ils ont la puissance. Ceux qui ont la puissance n'ont pas besoin de ce surplus de l'imaginaire qui vient donc comme une sorte d'aura, comme ça, recouvrir, dorer les choses et leur donner du prix. Enfin, l'analyse de Pascal serait à poursuivre parce qu'elle est très intéressante. L'imagination, c'est la faculté d'illusion, voire de mystification, des choses présentes, n'est-ce pas ? Mais qu'elle colore, tout ce qu'on parle comme ça, une sorte d'aura qui les valorise. L'imagination confère l'illusion, qui donne confiance, quand on en est doué, confiance en soi, on impose aux autres. Donc ce pouvoir de valoriser, donner du prix, phrase de Pascal que vous connaissez, l'imagination grossit les petits objets jusqu'à en remplir notre âme. L'effet de grossissement, valorisation, amplification, qui fait que finalement, ou encore, c'est un néant que notre imagination grossit en montagne. Donc quelque chose qui est cette dimension imaginaire, le terme est important chez Pascal ici, imaginaire, qui est cette sorte de dorure, d'enflure, c'est pas du réel présent comme il est, mais qui se trouve comme ça, recouvert, traversé par cette dimension de dépassement. Au fond, c'est ce que, dans le monde publicitaire d'aujourd'hui, n'est-ce pas, on cherche à faire. Quand le luxe, n'est-ce pas, vecteur d'imaginaire, on cherche à faire l'affiche qui développe cette dimension d'imaginaire qui va accorder de la valeur, comme ça, à la chose elle-même. Donc là, Pascal nous conduit vers l'idée d'une mystification par l'imagination comme fonction, donc, la plus trouble qui soit, puisque désemparant aussi bien la raison que la sensation, les désemparant l'une et l'autre pour imposer un prestige fallacieux. Bon, on voit bien quelle est sa fonction. Si je me tourne vers Spinoza, tout autre chose. La scène change absolument parce que le but est autre. Le but chez Spinoza, c'est quoi ? C'est d'essayer de promouvoir une sagesse qui se rende, s'affranchisse des affects. Et là, Spinoza va donc reconfigurer, mais tordre, je dirais, la notion d'imagination pour la faire rentrer dans son schéma à lui, qui est d'arriver à aboutir à Dieu aussi bien la nature et assimiler la perfection et la réalité. Donc, il va être obligé de tordre la notion d'imagination à son profit, à son usage, apparemment sans qu'elle lui résiste trop. L'imagination chez Spinoza, c'est quoi ? C'est la perception. C'est le fait que nous avons dans l'esprit des images, qui sont les images des choses. Donc, sans plus distinguer ce qui a teneur de cette image. Vous voyez ce qu'il en dit dans l'éthique ? Donc, puissance de Spinoza pour arriver à produire cette torsion, et en même temps, faiblesse du concept d'imagination pour se soumettre à cette torsion. Vous voyez quand il est dit, pour garder les mots en usage, bah, c'est ce qu'il ne fait pas justement, les affections du corps humain, dont les idées représentent les corps extérieurs, comme étant en notre présence, donc ce n'est plus toute l'imagination comme étant représentation de l'absent, non, présent. Nous les appellerons les images des choses. Donc toutes les figurations que nous avons des choses dans l'esprit sont des images. Et la suite ? Et quand l'esprit contemple les corps sous ce rapport, nous dirons qu'il les imagine. Donc, imaginer, c'est avoir en soi des images des choses. Donc, au lieu de penser imagination comme étant une figuration dans l'absence, in absentia, je ferme les yeux et je peux imaginer comme dans le rêve. L'imagination, je cite, imaginer, c'est-à-dire contempler comme présent, autrement dit, comme existant en acte. Donc nous ne faisons qu'imaginer, ce qui conduit à ne plus distinguer, au départ, le rêve et la réalité. Or, c'était le grand argument classique, n'est-ce pas ? Le sentiment de réalité par opposition au rêve. Non, la différence entre rêve et réalité est interne aux images elles-mêmes. Il n'y a qu'image. Il n'y a qu'imaginer. Et dans cet imaginer, on va distinguer, mais comme à titre secondaire, eh bien, le rêve de la réalité. De cette façon, tout rêve est une réalité tant qu'une affection n'est pas démentie par une autre. Donc, tant que ma production d'image n'est pas démentie par une autre, elle est vraie. Ce qui se passe, c'est que dans le rêve, eh bien, quand on se réveille, eh bien, la production d'image qu'on avait dans l'esprit se trouve démentie par une autre, qui est celle qu'on a éveillée. Mais sinon, c'est la même production d'image. Et réciproquement, la réalité est le propre d'une image que les autres images ne démentent pas. Donc, tant que d'autres images ne viennent pas démentir les images que j'ai dans l'esprit, c'est vrai. C'est donc la contradiction qui s'élève entre les images qui va m'amener à penser que celles qui ne sont jamais contredites sont vraies et celles qui se trouvent contredites sont fausses, comme en rêve. Vous voyez comment la notion d'imagination est complètement reconfigurée, puisque il n'est plus envisagé que l'imagination opère en l'absence des choses, mais au contraire, que ma seule façon de me rapporter de façon sensible aux choses soit par image, donc par l'imagination. Donc l'imagination, vous voyez, là, est réduite à la perception. Et comme tel, il y a une connaissance évidemment confuse. Confuse pourquoi ? Parce que dans mon rapport aux choses extérieures, eh bien, l'imagination se trouve faite à la fois de la nature de mon corps intérieur et de la nature des corps extérieurs. Elle n'est pas faite seulement de la nature des corps extérieurs, mais aussi de la nature de mon propre corps. Donc elle est ce mixte, n'est-ce pas, qui enveloppe à la fois l'un et l'autre et qui fait que la connaissance n'est pas claire, mais confuse. Je vous cite toujours dans l'éthique. Les images des choses sont des affections du cœur humain, dont les idées enveloppent la nature de notre corps et en même temps la nature du corps extérieur. C'est par exemple que je ne dirais pas que je vois le soleil à 200 pieds, comme on dit à l'époque, près de moi, je l'imagine. Imaginer, c'est Spinoza, c'est donc ce verbe fort qui signifie que c'est comme ça que je me le représente, de façon sensible. Et j'ai beau savoir que le soleil est à des, je ne sais quelle distance effective, en tout cas beaucoup plus loin que quelques centaines de mètres, je vais continuer néanmoins à l'imaginer comme ça, à cette proximité. C'est la grande idée de Spinoza, c'est qu'une connaissance ne détruit pas un affect. Il faut un autre affect pour détruire un affect. Et donc si le terme d'imagination est si important, c'est parce qu'il est celui qui exprime notre rapport affecté au monde, vis-à-vis du monde extérieur. Il doit donc se désolidariser par une autre connaissance qui puisse elle-même faire barrage à cette puissance d'affect de l'imagination. Vous voyez, de nouveau, donc, la notion d'imagination est prise dans un usage qui est celui de l'affranchissement vis-à-vis des affects, donc du passage de ce que Spinoza appelle la servitude à ce qui sera la liberté dans cette capacité du sage à ne plus se laisser affecter négativement. Troisième lieu, troisième usage, qui tire les notions d'imagination de son côté, sans plus de rapport avec les précédents, s'il m'arrête un instant chez Kant, par rapport à la question qui est la question kantienne, qui est à savoir celle de la connaissance. Et là, on retrouve bien la difficulté qui est celle dans laquelle s'est mise, difficulté mais aussi fécondité bien sûr, dans laquelle s'est mise la pensée européenne. En ayant ces deux arêtes, ces deux bords, la sensation d'une part, l'intellection de l'autre. D'un côté le sensible, de l'autre, l'intelligible. La pensée européenne s'est mise là-dedans, à partir des Grecs, s'est mise dans cette situation-là, des deux bords. Et c'est bien qu'à partir de là que Kant pense la connaissance. Nous ne pouvons connaître qu'à partir des sens. Toute information nous vient des perceptions sensibles, des intuitions sensibles, comme il dit. En ce sens-là, il est sensualiste, dans la tradition du XVIIIe siècle. Il n'y a pas d'idée innée, il n'y a pas d'intuition de l'esprit, etc. Non, on ne rencontre du réel, on ne touche à de l'expérience que par nos sensations. Et en même temps, cette sensation que nous captons par les sens, elle est informe, amorphe. Il faut donc qu'elle s'organise, qu'elle se synthétise, bref, qu'elle prenne forme, et elle le fait à travers les concepts, qui sont des concepts de l'entendement, concepts donnés, concepts souches, les catégories, ou concepts que produit l'entendement lui-même. Donc, de nouveau, le dispositif, c'est, dans la tradition issue d'Aristote, la sensation qui apporte, c'est pas, qui nous fait toucher du vrai, et puis, mais un vrai, comme dit Kant, rhapsodique, c'est-à-dire informe, et puis, cette opération de l'entendement qui va constituer en objet cette information, informe, non organisée de la sensation. Alors le grand problème, c'est celui au fond contre lequel n'a cessé de se cogner la pensée européenne, c'est qu'on a du sensible d'une part, du conceptuel ou de l'intelligible de l'autre, mais comment ça se rencontre ? Comment ça se touche l'un et l'autre ? Comment passe-t-on du sensible des sensations à l'intelligible du concept? Qu'est-ce qu'on peut mettre entre les deux qui fasse que ça se rencontre, que parce qu'ils sont l'un et l'autre hétérogènes l'un à l'autre? Donc quel est le ce que je mettrai au milieu qui fera que il sera l'interface entre le sensible sensation et l'intelligible du concept? Ben voilà, ce sera l'imagination qu'il produit à travers la notion de schème de l'imagination chez Kant. Donc la question est kantienne. Ce n'est pas la question de Pascal, ce n'est pas la question de Spinoza, c'est la question de kantienne par excellence, que puis-je connaître? Celle sur laquelle, je crois, Martin Rueff s'est déjà exprimé cette année. À partir de cette double capacité des sens d'un côté, de la conception de l'autre, et il faut trouver comment les relier. Et donc, ils sont hétérogènes l'un à l'autre, ces deux ordres, du sensible et de l'intelligible. Il faut donc trouver ce qui peut faire pont et qui fasse émerger de l'homogénéisant entre ces deux hétérogènes. Bien, ce sera dévolu à l'imagination, dans sa capacité propre, à produire donc, parce qu'elle est dans l'entre-deux, elle va produire l'interface entre le sensible et le conceptuel. Voilà la question telle que Kant la formule. Or, les concepts purs de l'entendement, donc dans ce chapitre sur le schématisme des concepts dans la critique de la raison pure, or, les concepts purs de l'entendement, comparés aux intuitions empiriques, concepts purs d'un côté, intuitions empiriques de l'autre, qui sont les intuitions sensibles, dit-il, sont tout à fait hétérogènes et ne peuvent jamais se trouver dans quelque intuition. Comment donc la subsomption de ces intuitions sensibles, comment donc subsumer, c'est-à-dire ranger sous les intuitions sensibles, les ranger sous le concept de l'entendement? Comment donc les concepts de l'entendement, comme forme de l'intelligible, vont pouvoir s'appliquer à la matière, pas forme contenu, à la matière ou au contenu des intuitions sensibles? Donc c'est le troisième terme qui sera là invoqué comme terme médian. Je vous lis Kant. Or, il est clair qu'il doit y avoir un troisième terme. L'important, c'est le « il doit y avoir ». Parce que c'est une hypothèse nécessaire. Et c'est ce qu'il va appeler les mystères de la nature de l'esprit. C'est qu'au fond, c'est une supposition nécessaire, tout ce « il doit y avoir », un troisième terme, qui doit être, homogène d'un côté à la catégorie, au concept donc, et de l'autre côté au phénomène, et qui rend possible l'application de la première, le concept, au second. Cette représentation médiatrice doit être pure comme le concept, c'est-à-dire pure sans rien d'empirique, hein, et en même temps sensible. Donc, à la fois d'un côté, dit-il, et cependant d'un côté intellectuel, de l'autre sensible. Tel est le schème donc de l'imagination. Donc là encore, la question tout à fait propre à Kant. Donc chacun a sa perspective et chacun réutilise l'imagination à sa façon parce qu'il en a besoin. Il a besoin comme étant justement le point, disons, de travail de sa pensée tel que c'est à partir de lui qu'il va pouvoir réarticuler l'optique qu'il va vouloir développer. Donc le schème transcendantal qui est un produit d'imagination mais qui n'est pas pour autant une image parce qu'au fond c'est ce moment médian où se fait une synthèse, comme dans l'entendement, comme au niveau du concept, mais qui est une synthèse du sensible. Donc synthèse comme l'entendement, mais synthèse du sensible. Donc c'est ça qui le rend médian, capacité d'être interface, capacité d'être tourné des deux côtés à la fois, du concept d'une part et du sensible de l'autre. Par exemple, le schème d'un chien. Si vous pensez à un chien, vous figurez un chien, non pas tel chien dans sa détermination particulière, mais ce qu'il faut figurer du chien pour que ce soit un chien. Donc ce sera le schème du chien. Vous avez une définition du chien dont va résulter un schème du chien, c'est-à-dire une figuration de tous les chiens. Donc à la fois, c'est de tous les chiens, donc c'est de l'ordre du concept, et en même temps, c'est la figuration, donc c'est l'ordre du sensible. Ce que Kant va appeler un monogramme, n'est-ce pas ? Mono, le 1 du concept, la subjonction, le fait que c'est donc la forme une, sous laquelle va se subsumer le divers, l'expérience, et en même temps, gramme, c'est du graphisme, c'est de la figuration, monogramme. Donc voilà, c'est ce qui serait l'intermédiaire fourni par l'imagination pour qu'une connaissance soit possible, venant donc s'entremettre entre le sensible comme contenu de la connaissance et puis la forme de l'intelligible unitaire, synthétisante du concept. Mais Kant, et c'est le mérite des grands philosophes, ne cache pas les difficultés. Il est là dans le terrain le plus flou qui soit. Il est dans l'incertain. Il essaie de penser ce dont il a besoin pour pouvoir faire tenir son affaire entre le sensible et l'intelligible. Et voyez ce qu'il dit. Il dit bien ce schématisme de l'entendement pur, en vue des phénomènes et de leur simple forme, est un art caché dans les profondeurs de l'âme humaine et dont nous aurons de la peine à arracher à la nature les secrets du fonctionnement pour les mettre à découvert sous les yeux. Donc là, vous voyez, on est sur le point difficile. Le point le plus difficile, parce qu'il faut relier, et c'est absolument nécessaire, relier ces deux côtés, le sensible conceptuel, le sensible intelligible. Il faut donc invoquer, il faut donc, comme ça, hasarder, je dirais, risquer cette fonction, mais dont je n'ai pas vraiment les tenants en main, n'est-ce pas, les tenants et aboutissants, et qui est cette fonction du schème pour lier ces deux côtés. Reconfiguration de l'imagination chez Kant lui-même à propos du beau, du sublime. L'imagination comme étant ce libre jeu, l'imagination avec l'entendement, libre jeu, l'imagination avec la raison, produisant le sublime, produisant le beau ou produisant le sublime. Bref, de nouveau, l'idée que c'est elle est partie prenante d'une élaboration. Donc c'est ça qui me paraît d'abord important, c'est qu'au fond, quand on se situe même à l'époque classique, donc dans le même registre de pensée, eh bien on voit que c'est, l'imagination, c'est ce qui est traversé par chaque problématique pour trouver le point où elle puisse s'appuyer, mais point risqué en même temps. Puisqu'il n'y a pas de consistance propre à la notion, si on veut plaider la misère de l'homme, si on veut plaider sa capacité de se libérer des affects, ou si on veut plaider la possibilité de la connaissance, eh bien, à chaque fois, on reconfigure l'imagination, puisqu'elle a cette plasticité extrême, n'est-ce pas, parmi nos notions, d'être le point le plus... le moins marqué ou le plus hypothétique, en tout cas, et celui donc qui se laisse le mieux travailler en vue du dessin affirmé. Je crois que l'enquête pourrait se poursuivre comme ça à travers toutes les philosophies, puisqu'au fond, c'est un peu comme le concept de temps, si vous voulez. C'est le lieu de la philosophie plus plastique. Plus plastique, donc plus élaborable, plus reconfigurable, et dont chacun tire son profit. Mais qui en lui-même n'impose rien. Je l'évoquerai encore... à travers une ultime référence, c'est celle de Sartre dans son grand travail sur l'imaginaire. Je veux dire qu'à le reprendre, d'ailleurs, je me suis rendu compte à quel point... Sartre est en purgatoire, bien sûr, mais s'il devait en sortir, c'est peut-être par là, d'abord. Parce qu'au fond, là, il y a un travail qui est d'abord un travail phénoménologique sur comme ça, une faculté qui détache de l'imagination, l'imaginaire... Et avec une réflexion, je trouve, forte, et surtout, même si, à mon sens, elle reprend beaucoup d'éléments, finalement, peut-être plus fictionnels ou mythologiques que réels, mais par rapport à sa problématique, pourquoi Sartre part-il de l'imagination? Qu'est-ce qu'il en a à faire? Ou qu'est-ce que l'existentialisme a à faire de l'imagination? Pourquoi consacrer un livre à l'imagination, et puis un beaucoup plus gros livre sur l'imaginaire? Bah, par rapport à une chose qui est l'enjeu propre de Sartre, la liberté. Au fond, c'est parce qu'il en a besoin pour promouvoir ce à quoi il tient, qui n'est pas la misère de l'homme, qui n'est pas la libération des affects, qui n'est même pas la possibilité de connaissance, qui est la capacité d'être libre. Et l'imagination, c'est ce qui sert à Sartre pour plaider la cause de la liberté humaine. Je suis libre parce que je peux imaginer. C'est le fait que je puisse imaginer qui me fait expérimenter que je suis libre par rapport au monde. Que je ne suis pas seulement, que je suis pas enlisé dans le monde, comme il dit, n'est-ce pas, mais je peux m'en détacher, que je peux avoir une marge de manœuvre avec lui, bref, que je prends un recul de la pensée. C'est lui qui affirme ma liberté. Donc, vous voyez, encore un tout autre usage, et donc, eh bien, une conception de l'imagination qui sera aussi très différente, puisque pour lui, évidemment, l'important, c'est que l'imagination puisse être in absentia. Pas du tout comme chez Spinoza, où elle est la perception sensible. Non, c'est qu'il faut effectivement, elle est ce par quoi je peux me démarquer du monde. Quelles conditions donc pour qu'une conscience puisse imaginer ? Vous êtes question des conditions de possibilité que Kant a fait émerger dans la philosophie. Sartre la reprend à son profit. Quelles sont les conditions de possibilité d'une activité, d'une capacité d'imagination ? Mais pour qu'une conscience puisse imaginer, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse ? Bien, il faut qu'elle ait la possibilité, comme il dit, de poser une thèse d'irréalité. Il faut donc que je puisse me détacher du monde. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse faire deux choses. Un, que je puisse synthétiser quelque chose qui soit le monde, et que je puisse, par rapport à ce que j'aurais synthétisé ainsi comme étant le monde, que je puisse m'en détacher d'une certaine façon, ou, comme il dit, c'est le grand terme sartrien, le néantiser d'une certaine façon. Donc, l'imagination se trouve prise dans la problématique sartrienne qui est le néant et la liberté, pour le dire en deux mots. L'imagination, c'est ce qui me permet de néantiser du monde d'une certaine façon et de, par là, eh bien, éprouver ma liberté comme être dans le monde, mais non pas enlisé dans le monde. Dans le monde, parce que participant au monde, mais non pas enlisé en lui. Oui, joli. À la fin de l'imaginaire. Nous saisissons à présent la condition essentielle pour qu'une conscience puisse imaginer. Il faut qu'elle ait la possibilité de poser une thèse d'irréalité, néantisée. L'imagination, c'est un acte de néantisation d'une certaine façon, sous un angle, n'est-ce pas, de façon à ce que l'image puisse exister. Donc, c'est parce que notre conscience, et c'est bien le terme sartrien dans cette affaire, peut poser des objets affectés d'un certain caractère de néant par rapport à la totalité du réel. Donc néant, c'est-à-dire qu'il y a, là, une brèche s'ouvre, une marge de jeu, d'initiative réapparaît, c'est pas par rapport au monde. Parce que justement, je replie le monde sur lui-même et je m'en démarque par la production d'une image qui, du fait même sa production, eh bien, néantise, prend du recul vis-à-vis de ce monde. Je cite, n'est-ce pas ? L'imaginaire, l'objet imaginaire peut être posé comme inexistant, ou comme absent, ou comme existant ailleurs, ou ne pas être posé comme existant. Chaque fois, il s'agit donc d'une catégorie de négation, quoiqu'à des degrés différents. Ainsi, je cite, l'acte négatif est constitutif de l'image. Ou encore, poser une image, c'est constituer un objet en marge de la totalité du réel, c'est donc tenir le réel à distance, s'en affranchir, en un mot, le nier. Bon, je ne suis pas sûr que Sartre soit si novateur à cet égard. Je ne suis même pas sûr qu'il ne refasse pas servir un peu une mythologie, l'imagination. Mais en tout cas, ses formules, il a l'art de la formule, c'est au moins ça, on peut lui reconnaître. Pour en faire argument, pour ce qui est sa thèse à lui, à savoir, contre un déterminisme de la conscience, trouver un lieu de possibilité de la liberté. Je cite... Pour qu'une conscience puisse imaginer, il faut qu'elle échappe au monde. Par sa nature même, il faut qu'elle puisse tirer d'elle-même une position de recul par rapport au monde. En un mot, il faut qu'elle soit libre. Bon, je voulais au moins dire d'abord ceci, à savoir, l'imagination est pauvre par l'inconsistance conceptuelle qui est la sienne. Donc, inconsistante, donc plastique, donc malléable, reconfigurable, chacun en tire, disons, son profit, pour en faire le point d'appui, n'est-ce pas, de son projet philosophique. Et je pense que c'était son rôle, la philosophie, d'être ce terrain comme ça, moins marqué, plus disponible à l'opération philosophique. Donc s'y prétend chacun selon son usage. Bien, mais elle est pauvre aussi, je crois, et c'est mon second point, parce que, à l'encontre de cette image, qui est dans Sartre d'ailleurs, d'une imagination qui serait permettrait d'embrasser plus que le réel, je voudrais simplement montrer rapidement qu'à mon sens, elle est plutôt moins que le réel. Donc non pas en dépassement, mais en retrait. Ce qui ferait sa pauvreté. Et pour faire transition entre les deux, je relirai ce passage, c'est le grand passage de Descartes sur le morceau de cire. Vous l'avez en tête, n'est-ce pas, après avoir dit « je pense, je suis », donc avoir appréhendé « moi en tant que pensée » et la certitude que j'en ai, bref, l'évidence de la certitude, qu'est-ce qui se passe en face? Eh bien, le morceau de cire. D'abord, il est dur, je le touche, ça fait du bruit, il y a une odeur, un volume, tout ça, bon, c'est un bloc de cire. Et puis, il s'approche du feu et il se met à fondre. Et là, il s'agit de définir ce qui sera le statut de l'objet par rapport au statut du sujet. Donc, grande opération dans les méditations métaphysiques. Le terme d'objet n'est pas là, mais ce qui va aboutir, c'est qu'on va retirer de la cire toutes les qualités secondes. On va, comme dit Descartes, la déshabiller, tant de quoi nous dames considérons. Je vais la considérer nue, c'est-à-dire privée de ses qualités secondes, et il ne restera plus qu'une qualité essentielle, l'étendue. Res extensa face à res cogitans. Bon, ça, c'est le cadre d'emblée. Mais alors, Descartes fait travailler son imagination. Imagine à bord, dit-il, j'imaginerai. En traduit en français, j'exciterai mon imagination. J'aime bien la formule. On peut exciter son imagination autant qu'on peut, à quoi on aboutit? Si vous excitez votre imagination, vous la fouettez, ça donne quoi? Eh bien, par rapport au morceau de cire d'abord, pourtant la chose la plus. Bon, vraiment, chose, hein, morceau de cire qui est approché du feu. Descartes nous dit. Quand j'approche ce morceau de cire du feu, certes, il ne demeure rien que quelque chose d'étendu, de flexible et de muable. Or, qu'est-ce que cela, flexible et muable? N'est-ce pas que j'imagine que cette cire, étant ronde, est capable de devenir carrée et de passer du carré en une figure triangulaire? Voilà, muable, c'est ça. Elle peut muter, muer d'une forme à l'autre. J'en imagine plusieurs, ronds, carrés, triangles. Mais voilà ce qu'il dit. Non, certes, ce n'est pas cela, puisque je la conçois capable de recevoir une infinité de semblables changements, et je ne saurais néanmoins parcourir cette infinité par mon imagination. Donc mon imagination est en défaut. Parce qu'en fait, la cire, un morceau de cire, vous approchez du feu, il prend infiniment de formes. Il peut infiniment varier. Alors moi, mon imagination, je peux la fouetter autant que je veux, elle va en envisager quelques-unes. Donc elle sera en retrait par rapport à cette variabilité infinie qui est celle du morceau de cire approché du feu. Eh bien, mon imagination, péniblement, va en imaginer quelques-unes, ronds, carrés, triangulaires. Vous voyez, la forme est importante parce que non, certes, ce n'est pas le propos de Descartes ici, mais ce qu'il dit est significatif. Non, certes, ce n'est pas cela, puisque je la conçois capable de recevoir une infinité de semblables changements, et je ne saurais néanmoins parcourir cette infinité par mon imagination. Donc mon imagination ne peut pas parcourir l'infinité de changements du morceau de cire. En quoi elle est pauvre? Pauvre par rapport à cette infinité de la variable, la variation plutôt, puisqu'elle n'envisage que quelques-unes. De même pour l'étendue, juste après, puisqu'on a dit qu'elle la cire, ce qu'il en reste finalement quand j'approchais du feu, ce qu'elle est effectivement, c'est quoi? Quelque chose d'étendu, de flexible et de muable. Flexible et muable, donc, infiniment flexible et muable. De même pour l'étendue. Ben, je me rends compte que la cire, je cite, est capable de recevoir plus de variétés selon l'extension. La cire étendue, hein, que je n'en ai jamais imaginé. Donc, ma capacité d'imagination est en retrait par rapport à la capacité de variation du réel. Ce réel serait-il un morceau de cire que j'approche du feu? Alors, je crois que c'est quelque chose qui est à réfléchir, parce qu'au fond, ce que fait apparaître la Descartes, c'est ce qu'on dit infiniment de savants, et Descartes en est un, mais aussi de romanciers, comme Balzac. Je vous cite une formule. Donc, ce qui fait que l'imaginaire est pauvre, c'est parce qu'elle contient moins de variété que le réel. Et je dirais, ce qui fait qu'elle est pauvre, également, mais ça va de suite, c'est qu'elle a moins, elle possède moins d'étrangeté que le réel. On croit que l'imagination, c'est ce qui conçoit le plus étrange, le plus aberrant, le plus débordant, bref, c'est pas au-delà, en dépassement du réel. Et au fond, je vous cite la formule d'un généticien. Un généticien, donc, qui voit justement, étudie l'essor du vivant. Je cite John Haldane. La réalité n'est pas simplement plus étrange que nous ne le pensons, elle est plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. La réalité est plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Donc, dit par un généticien, mais Balzac dit la même chose. Ce constat qu'au fond, l'imagination donc n'est pas plus que le réel, mais moins. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le réel qui déborde l'imagination et non pas l'imagination qui déborde le réel. L'imagination fournissant quelque chose de un éventail moins varié, moins étrange, c'est-à-dire que c'est la vie qui nous surprend plus que je ne peux l'imaginer. Ou que le réel, dans ses possibilités, dépasse ce que j'en peux imaginer. Alors vous me direz, mais l'art, n'est-ce pas ? L'art n'est-il pas le produit de l'imagination en débordement du réel ? Pensez Jérôme Bosch. Pensez Dali, les expositions qu'on a vues, bref, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une débauche, un déploiement d'imaginaire, un imaginaire illimité, finalement, en dépassement du réel ? Est-ce qu'il n'y a pas là une profusion d'imaginaire qui nous fait déborder, dépasser les limites du réel ? Ben, c'est la question qu'il faut se poser, je crois, justement. Est-ce que ce que nous voyons sur ces tableaux n'est pas plus toujours de l'ordre de composition d'éléments de nos représentations, plus ou moins déformées, certes, plus ou moins variées, certes, mais qui fait que l'imagination, finalement, c'est quoi ? C'est une sorte de... une marge de manœuvre par rapport à nos représentations, une marge de manœuvre, ou un jeu à partir de nos représentations, mais toujours par rapport aux représentations constituées. Donc, une façon de s'autoriser une marge de manœuvre, une initiative, mais par rapport à des éléments de représentation qui sont toujours des éléments de représentation qui sont constitués comme tels, qui en tant que tels ne sont pas inventés. Je dirais même, ce qui est riche, si on pense par exemple à ce qui a été l'évolution de l'art en Europe, la peinture, de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle, cette immense mutation, n'est-ce pas, où l'art pictural se met en révolution, hein. Et qui fait qu'un tableau de... quasiment chaque année, n'est-ce pas ? Ça ressemble plus au précédent, je veux dire. Ce qui commence après l'impressionnisme, qui est encore dans l'ordre de la logique de la représentation, après l'impressionnisme, n'est-ce pas ? Quand on veut en sortir, et ce qui se passe d'année en année, de isme en isme, n'est-ce pas ? Entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, pour aboutir au cubisme, au surréalisme, enfin, tout cela. On dira travail de l'imagination, puissance de l'imagination créatrice. Est-ce vrai ? Est-ce que c'est la puissance, la poussée de l'imagination qui a produit cette mutation ? Est-ce que ce n'est pas plutôt la déconstruction de la raison par la raison elle-même ? Est-ce que ce n'est pas plutôt le travail critique qui a été fait à l'égard des modes de représentation de la peinture à l'époque précédente ? Et dont finalement l'aboutissement est dans l'impressionnisme, qui fait qu'une initiative, une possibilité d'opérer, une marge de manœuvre, bref, comme dirait Sartre, une liberté, est devenue possible. Donc il me semble qu'au fond, ce qui a permis cette mutation, révolution enfin de la peinture, en quelques décennies, c'est une opération de la raison contre la raison. Mais dans la raison, c'est-à-dire... le travail d'analyse, tout ce qui a été la remise en question précédente, la remise en question des conditions de l'art telles qu'elles s'étaient jusque-là imposées, la représentation, la perspective, bref, tout ce qui est apparu progressivement arbitraire ou artificielle et qui a été soupçonné et vis-à-vis de quoi on a ouvert un écart de plus en plus grand de façon à déconstruire cette raison picturale précédente pour en promouvoir une autre, en tout cas à l'essai. Donc le fruit d'un travail critique, une déconstruction des facticités précédentes ou des arbitraires précédents pour essayer d'être plus proche de la sensation ou au contraire plus proche de la configuration conceptuelle. Bref, toutes ces tentatives me paraissent globalement souvent présentées comme étant une poussée de l'imaginaire. Je me demande si ce n'est pas en fond quelque chose d'un autre ordre, qui est un travail de la raison par elle-même, sur elle-même, contre elle-même, bref, quelque chose qui est une opération vis-à-vis de quoi, dans l'initiative et dans la raison elle-même et dans sa capacité propre. Quitte à ce que la retombée, évidemment, soit dans la modification du traitement des images. Alors, vous me direz, bon, peut-être, alors, le rêve, est-ce que le rêve, c'est pas un déploiement d'imagination débridé, n'est-ce pas, où l'imaginaire, vraiment, alors là, se donne libre cours et sans limite, sans réserve. Le rêve, lui, est riche, n'est-ce pas. En fait, si on lit Freud, l'impression du rêve, on voit que le rêve est pauvre, comme imagination. On dit qu'il est riche, mais Freud nous montre très bien, je crois que dans ce texte, je trouve magnifique, n'est-ce pas, Traumdeutung, montrer qu'au fond, le travail du rêve fait apparaître que le rêve, c'est une... ça nous paraît comme ça, extraordinaire de débauche imaginaire, en fait, ça répond à des règles de... d'élaboration qu'on peut percevoir, qui sont discrètes, certes, ou qui nous échappent, mais qui sont à l'œuvre et qui font bien que nos rêves sont faits de choses toutes simples de notre vie et de pans du réel qu'on ne peut suspecter. Si vous partez de ce qui est l'argument premier de Freud, savoir que le rêve, c'est sa thèse pas forte sur laquelle, dont il ne démord pas, il y met une passion féroce, n'est-ce pas, pour soutenir que le rêve est une satisfaction du désir. Même les rêves dont on ne veut pas, n'est-ce pas ? Même les rêves les plus qui nous font le plus souffrir. Néanmoins, ce qu'il cherche, c'est ça. C'est à exprimer la satisfaction d'un désir. Bon, si c'est ça le principe de base, donc le rêve n'est pas absurde, mais qu'il est une satisfaction du désir, la question que pose Freud, c'est bien celle-là. Si le rêve représente un désir satisfait, je cite, d'où vient donc la forme surprenante, déroutante, dans laquelle cette satisfaction du désir est exprimée. Et bien sûr, sur la scène du rêve, dans le rêve patent, n'est-ce pas, il y a quelque chose, ça ne cesse de nous surprendre par son incongruité, par sa gratuité, par tout ce qui paraît cette sorte d'émancipation vis-à-vis du réel, dont le rêve serait le déploiement. Et même les rêves pénibles seraient de cette logique-là. En fait, ce que nous montre Freud, et avec une passion que je trouve, un acharnement que je trouve magnifique, même si parfois, bien sûr, il est amené à forcer les choses, c'est que les rêves, on sait bien, c'est du voilé, c'est du crypté, c'est donc de la défiguration, c'est du travestissement, bref, tout ça, c'est quoi ? C'est en fonction de... la censure, donc de refoulement, eh bien, c'est ce biaisage continu pour arriver à rendre figurable ce que la censure voudrait refouler. Donc, travail d'élaboration du rêve, nous dit Freud. Derrière le contenu onirique manifeste, il y a ce contenu latent, dont le contenu manifeste est la transposition. Donc, le rêve, au fond, le rêve manifeste, celui dont on se souvient, c'était une écriture. Une écriture dont on peut apprendre les règles d'écriture, ça c'est le grand mérite de Freud, et donc tout ce qui nous paraît incongru, surprenant, étrange, bref, débauche d'imaginaire, en fait répond à des règles de production qui sont tout à fait analysables. Des règles de transposition, au fond c'est ça qui s'est opéré, une transposition. Ce n'est pas une invention, c'est une transposition. C'est du cryptage, c'est du voilage. Et donc, on peut traduire ce contenu manifeste pour y retrouver, selon donc ces lois de composition, pourrait retrouver le sens latin. Bon, tout ce que Freud analyse si bien sous le travail de condensation, n'est-ce pas ? Verdichtungsarbeit. Travail de condensation qui quoi ? Qui fait qu'il y a compression, qu'il y a condensation, bref, que certains éléments sont mis de côté, qu'on ne garde plus qu'une petite partie, un fragment de ce qui a été au départ conçu, etc. Donc, d'où vient un caractère incomplet, lacunaire de la restitution qui la rend étrange ? Qui la rend étrange par ce caractère dont condensé, donc lacunaire, donc comme ça incohérent, mais qui est qu'une incohérence en fait d'apparat, ou ce qu'il appelle le déplacement. Verschiebungsarbeit. Ce déplacement, ce décentrement, ce décalage qui fait que progressivement, eh bien, tout devient effectivement insolite, étrange, imaginaire, etc., mais en fait n'est que le résultat d'une décalage, surdétermination, bref, de tout ce qui est cette opération de traduction. Ou encore ce qu'il appelle les voies de liaison, Verbindungswege, n'est-ce pas ? Ces façons d'associer qui sont qui ont leur logique propre, mais qui permettent justement de aboutir à quelque chose de totalement fantasmatique, mais en fait très cohérent, parce que répondant à ces règles de production. Bon. Ce qui m'amène donc à poser la question. Qu'est-ce qui est riche si l'imagination est pauvre ? Si ce n'est pas de là qu'on peut espérer la richesse, de ce trésor d'imagination, comme on dit, ou comme on dit, il a une riche imagination. Si ce n'est pas l'imagination qui est le trésor, où est le trésor ? Où est la richesse ? Mais d'abord, que signifierait riche dans ce cas-là ? Riche signifiera une diversité des possibles, une diversité des possibles inventés. À la fois diversité, ce que Descartes appelait la variation, hein, toutes les variétés que peut prendre la forme de la cire, et puis l'inventivité, c'est-à-dire du non encore existant, production d'un non encore existant. Donc diversité, inventivité, le possible, l'imaginaire déborderait le réel. Mais au nom de quoi dira-t-on que l'imagination est riche, c'est-à-dire qu'elle déborde ou dépasse le réel ? C'est-à-dire qu'elle outrepasse les limites du réel. On pourra dire, parce que le réel est exclusif, alors que l'imaginaire ne l'est plus. Donc, par là, il déborde. L'exclusivité ou l'exclusivisme du réel, parce que lui, finalement, s'en émancipe. Comme dans la scène du rêve, où ne joue plus le principe de contradiction. Mais en fait, je dirais, le réel n'est que temporairement exclusif, à un moment précis, c'est tout. Mais en fait, il se modifie comme la cire de Descartes, n'est-ce pas ? Il est en modification continue, le réel. Il ne s'arrête pas. Donc, comme la cire de Descartes est en train de fondre, eh bien, il se modifie, et il se modifie de façon plus amplement que nous ne pouvons l'imaginer. Encore une fois, comme le morceau de cire de Descartes, qui se modifie plus que je ne peux l'imaginer sous des figures qui sont toujours plus ou moins typées, ronds, triangulaires ou carrés. On pourrait dire aussi, le réel est borné, limité, comme vous savez, frontière du réel, alors que l'imaginaire, lui, est débordant, infini dans ses possibilités. Si vous laissez aller votre imagination, ou si vous l'excitez, comme on traduit Descartes, n'est-ce pas ? Mais en fait, mais là, je reprendrai ce que nous dit Freud. En fait, l'imagination ne fait que déformer, défigurer, donc condenser, déplacer, enfin, surdéterminer, etc., etc., le réel. Même sur les figures sur les peintures de Dali, finalement, ce n'est que ça. Ou on pourrait dire encore, le réel est marqué par la nécessité, alors que l'imaginaire, lui, marqué par la liberté. C'est à quoi ce qu'avançait Sartre, déjà. Mais en fait, je répondrais, le réel, en fait, lui, c'est le lieu de la contingence. C'est le réel qui est le lieu de la contingence. La rencontre, comme ça, n'est-ce pas ? Non intégrée. Alors que l'imagination, elle obéit les contraintes, finalement, de déformation, de défiguration, de déformation et reformation, bien sûr, qui n'en relève pas moins de règles discrètes, mais qui, selon lesquelles elle peut travailler. Donc, si c'est le réel qui déborde l'imaginaire, ou comme je le disais précédemment, on prend cette formule, la réalité n'est pas simplement plus étrange que nous le pensons, elle est plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer, Même si nous allons aux limites de notre imagination, que nous la déployons le plus possible, néanmoins, au fond, la question que je vais poser est celle-là. En quoi notre imagination est-elle emmurée ? Emmurée. On la croit la plus libre, hein, voilà, celle qui déborde, celle qui dépasse les frontières, bref. Mais est-ce qu'il n'y a pas un emmurement dans lequel elle est et que nous ne soupçonnons pas, mais que, par exemple, Freud, réfléchissant sur le rêve, fait apparaître ? Donc, si c'est le réel qui est riche en débordement par rapport à l'imaginaire, comment est-il riche ? De quoi est-il riche ? Ou qu'est-ce qui est riche dans le réel ? C'est la question que je voulais poser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ouvre des possibles qu'on n'imaginait pas ? Qu'est-ce qui fait que du réel nous paraît plus étrange, nous surprend davantage, au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer ? Mais je dirais finalement, qu'est-ce qui est riche ? C'est le réel, c'est-à-dire, c'est le processus de la réalité. C'est ce qui advient, Keshen. C'est ce qui arrive, ça qui est riche. Ou ce que j'appellerais les transformations silencieuses. Au fond, qu'est-ce qui est fécond ? Qu'est-ce qui fait effectivement mutation ? Qu'est-ce qui déborde du présent ? Qu'est-ce qui permet d'innover ? J'appellerais ça, selon un terme que j'ai déjà comme ça essayé de conceptualiser, les transformations silencieuses. J'appelle transformation silencieuse ce qui chemine sans bruit, donc dont on ne parle pas. Ces cheminements comme ça, continus, discrets, ce qui chemine sans bruit et dont on ne parle pas. Transformation silencieuse de la cire de Descartes, n'est-ce pas ? Passant par d'infinies variations. Transformation silencieuse dans notre vie, je prends cette scène finale de Proust dans Le Temps retrouvé, la scène du bal des têtes, n'est-ce pas ? Le narrateur qui revient chez la princesse de Guermantes. Finalement, qu'est-ce qu'il voit ? À la fin, dernière page de Proust, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est que tout est advenu. Il est advenu ce qu'il n'aurait pas imaginé. Il est parti, il a voyagé, mais il revient. Et finalement, non seulement que celui qu'il a connu, jeune homme, comme ça, plein d'élan, est devenu comme un vieux moine tonsuré, mais quel est le constat ? C'est que Albertine, à qui il tenait plus que la vie, finalement, vis-à-vis d'elle, il est devenu indifférent. Ben, il n'aurait jamais imaginé, il a dit, n'est-ce pas, pouvoir ce qui... Il n'aurait jamais imaginé, or c'est réel. C'est arrivé. Donc, cette Albertine à qui il tenait plus qu'à la vie, et finalement, il est arrivé entre eux, je dirais, par transformation silencieuse, par évolution comme ça, discrète, faisant leur chemin, nuance, silence, bon, tout cela, tout ce qui fait que progressivement, eh bien, ce qui n'est pas envisagé, qu'il n'avait même pas pensé imaginable, est néanmoins arrivé. Il n'aurait pas pu l'imaginer, or c'est bien réel. Donc c'est ce devenir de transformation silencieuse, finalement, discret comme il est, et qui a produit cet effet. Ce qui nous fait rencontrer, je crois, ce qui est le terme fort, c'est l'inimaginable. L'inimaginable qui est réel. Inimaginable mais réel. Inimaginable mais réel qu'Albertine soit devenue indifférente. Et ce que j'appellerais, puisque cela me rentre plus dans mon chantier, l'inimaginable théorique. Ce qui est riche, par exemple, c'est la diversité des cultures. C'est l'écart des cultures qui est riche. Et non ce que j'imagine à partir d'une culture, emmurée comme elle est, de l'intérieur ou à partir d'elle. Et, par exemple, la rencontre des masques africains par Picasso. Là, on touche une fécondité qu'on n'avait pas imaginée, mais qui peut être récupérée. C'est ainsi que j'envisage l'écart avec la culture chinoise classique. Par exemple, qu'on puisse penser le paysage, je m'étais intéressé récemment, à partir de la notion chinoise, montagne haut. Ben, je peux secouer la notion de paysage en Europe autant que je veux, je peux chercher à imaginer autant de possible à la notion de paysage, je reste dans le pli pays-paysage, dans ce sémantisme, dans cette ornière, dans cet emmurement-là, alors que je découvre par ailleurs, chose que je comprends très bien, qui est tout à fait cohérente, qu'on peut aborder tout autrement la question en disant, enfin la notion, en disant les montagnes et les eaux, le haut et le bas, ce qui a forme, ce qui n'a pas forme, ce qui est stable et ce qui est mouvant, etc., etc. La polarité, la corrélation, etc. Ou par exemple, je n'aurais jamais imaginé que fadeur soit un terme positif. Or, il suffit que j'entre dans la culture chinoise pour me rendre compte comment, effectivement, de façon cohérente, ça peut l'être. Donc là, la richesse, elle est dans l'écart. Écart de ce qui chemine dans nos vies, écart de ce qui chemine entre les cultures, écart de ce qui chemine entre les pensées. Bref, dans ce dépliement-là, qui fait apparaître qu'il y a bien un inimaginable théorique en amont de ce que je peux concevoir et même imaginer. Donc je dirais pour achever que si j'avançais que l'imagination est pauvre, par exemple, elle garde ce thème bavard, n'est-ce pas, de la riche imagination, avec ce qu'il implique de mythologie romantique, romantique pour le mieux et publicitaire pour le pire, c'est pour en prendre le contre-pied et pour faire apparaître qu'au fond, à l'encontre de ce que nous impose le terme dans sa formulation, l'imagination, d'une part, c'était mon premier point, la notion est très inconsistante dans sa définition, donc malléable de ce fait, prête à tous usages, et que c'est donc intéressante à cet égard, parce qu'elle constitue un point de difficulté pour la pensée, et même chez Kant, que chacun donc reconfigure à sa façon, et dont chacun peut, difficulté donc plasticité, dont chacun peut tirer l'usage qui lui convient, et puis qu'à l'encontre de ce que nous attendons, l'imagination n'est pas cette faculté si inventive, illimitée, mais, je dis, emmurée, c'est-à-dire au fond, prise dans des limitations qu'elle ne soupçonne pas elle-même, que nous ne soupçonnons pas d'elle-même, et au fond régie ou guidée par des règles qui échappent à notre attention. Et que nous pouvons en fait fouetter notre imagination autant qu'on veut, eh bien, on n'en tient pas grand-chose. Par exemple, si je vous dis, mais imaginons le monde dans 2 ans, dans 10 ans. C'est comme quand on a cherché à imaginer, à la fin du 19e siècle, le monde à venir. Eh bien, dans les années 1880, on voyait que l'avenir serait plein de ballons, de zeppelines, n'est-ce pas ? Parce que le ballon marchait bien, Gambetta avait quitté Paris en ballon, bref, le ballon était l'avenir. Et donc on imaginait, quand on disait « imaginez le monde de demain », ah, il y avait des ballons partout. Et puis non, quelque chose a démarré par ailleurs discrètement, c'était l'avion. Et voilà, une autre source a affleuré, qu'on ne soupçonnait pas, mais qui procédait logiquement, par cohérence, je dirais là encore, transformation silencieuse qui s'est faite discrètement et qui a découvert comme ça, une nouvelle fécondité, qui fait que on avait tous les épines et les ballons du ciel ont disparu. Donc, difficulté extrême par rapport à l'avenir, à l'imaginer, on ne peut concevoir l'avenir au sein approché que par des analyses, que par, disons, en tenant les fils de ce qui est engagé aujourd'hui, donc de cette effectivité de la situation présente, pour essayer de voir en quoi, quelles sont les propensions effectives, donc les lignes d'infléchissement, les lignes de renouvellement, mais par analyse, et non pas, disons, en produisant, comme on dit, de l'imaginaire. Bref, c'est ce qui me paraît renvoyer à l'idée que s'il y a richesse, et il en faut, puisque la vie, finalement, c'est d'exploiter des ressources de richesse, eh bien, c'est du côté plutôt de ce que j'ai appelé transformation discrète, silencieuse, celle déjà qu'on trouve dans le morceau de cire de Descartes, et qui chemine sans qu'on s'aperçoive, et qui fait que par écart progressif, eh bien, quelque chose s'ouvre comme ressource effective. Donc, Dieu merci, ce n'est pas l'imagination qui est riche, je vous dis, elle ne désigne qu'un point de difficulté continuellement reconfiguré par la pensée, mais c'est le cheminement discret, silencieux, ouvrant constamment de l'écart, donc indéfiniment varié et inventif, de nos vies comme de nos pensées. Je vous remercie.